cesse de t'en parler et commence à bien faire. D'un bon roi, l'office est bien faire et peut parler. Si tu veux être cru, roi et bon catholique, rends l'honneur dû à Dieu, ruine l'hérétique, délaisse les méchants et remets en police l'Église, la noblesse et l'État plébéien. Pamphlet catholique contre le roi Henri III en juillet 1588.
Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau.
La question du tyrannicide ou du régicide s'est posée au moment des guerres de religion dans le royaume de France. Il y a eu effectivement en 1589, puis un peu plus tard en 1610, deux souverains français assassinés, Henri III puis Henri IV. Je vous propose donc de réfléchir sur les raisons qui ont développé dans la deuxième moitié du XVIe siècle, en particulier à la fin du siècle et au début du XVIIe siècle, des théories du tyrannicide. En fait, l'élément déterminant a été, d'une part, la question de la Saint-Barthélemy en 1572. Le massacre de la Saint-Barthélemy a indéniablement traumatisé les communautés protestantes du royaume. Et donc, la décision du roi Charles IX d'assumer le massacre, même s'il n'en était pas à l'origine, a radicalisé un courant déjà critique envers une pratique personnelle du gouvernement du royaume. Et puis, il semblait également que le roi avait trahi finalement son sacre dans la mesure où il n'était plus le père de tous ses sujets, mais il avait été le meurtrier d'une partie de ceux-ci. Aussi, apparaît un courant monarchomaque qui est représenté par des grands intellectuels protestants et qui remet en cause finalement cette vision de la monarchie et qui remet en cause aussi la légitimité d'un roi qui va jusqu'à massacrer ses sujets. On retrouve toute une série d'écrits, par exemple le Franco-Gallia de François Hotman en 1573, l'écrit du magistrat Théodore de Bèze en 1575 du droit des magistrats et également de la part de Duplessis Mornay Vindicae contra Tyrannos en 1579. Ces écrits réactualisent la théorie du contrat qui lierait le souverain avec son peuple. Et en cas de rupture du contrat, comme ce fut perçu au moment de la Saint-Barthélemy, eh bien, il y a un droit de résistance contre un roi devenu tyrannique. Et donc, il y a, de la part de la communauté protestante, effectivement, une vision qui se veut plus éloignée de la vision traditionnelle de la monarchie, et circule toute une série de pamphlets où le roi de France, en l'occurrence Henri III, le successeur de Charles IX, eh bien, devient un nouveau Néron. Écoutons par exemple ce sonnet de janvier 1577, où on va attaquer à la fois le roi Henri III, la reine mère et le duc de Guise. Le Néron de la France, Aiguise et Médicis, tyran outrecuidé, peste de notre terre, cruel, ambitieux, sale putain, qui sert l'or, l'honneur et le bien dont nous sommes nourris. Donc il y a bien effectivement une légitimation de la résistance envers le pouvoir monarchique et avec même le principe éventuel d'une résistance qui peut aller jusqu'au tyrannicide. Mais il convient de remarquer que les rois assassinés en France ne l'ont jamais été par des protestants, mais bien par des catholiques. Et c'est là où il faut revenir à un autre contexte, c'est celui de la Ligue. À partir des années 1580, et surtout à partir de 1585, la Ligue catholique s'organise autour de la famille des Guise et de son chef Henri de Guise. Et cette Ligue se radicalise dans la mesure où elle estime que le roi Henri III ne défend pas assez le catholicisme face à l'hérésie protestante. Aussi, on voit de nombreux textes, des pamphlets et des sermons de religieux qui appellent finalement à l'élimination d'un roi qui n'est plus digne de l'être. Et c'est ce qui va se passer en 1589. Car le coup d'État royal de décembre 1588 à Blois, qui a consisté à éliminer le duc de Guise, eh bien, va engendrer une haine accrue contre le souverain, qui accepterait le principe, puisqu'il n'a pas d'enfant, que ce soit son cousin Henri de Navarre, protestant, qui devienne roi de France. Et donc, il y a véritablement, dans la première moitié de l'année 1589, un déchaînement de pamphlets, de sermons contre le tyran qu'est le roi Henri III. Et cela aboutit, le 1er août, à l'assassinat du souverain par le dominicain Jacques Clément, qui est sans doute convaincu d'être le bras armé de la punition divine lorsque il blesse à mort le souverain. Effectivement, il a obtenu une audience avec le roi et il va demander à être entendu par le souverain de manière discrète parce qu'il lui a, il a à lui faire des révélations. Les gardes du souverain se retirent quelque peu et profitant de ce tête-à-tête avec le roi, ils le poignardent. On ne connaît pas, je dirais, totalement les dessous de l'affaire parce que il a été massacré par les gardes une fois qu'il a accompli son geste. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu un culte de Jacques Clément dans une bonne partie des ultra-catholiques qui voient en lui le bras de Dieu. Ce n'est pas le cas de tous, parce qu'il y a de fidèles royalistes et également ce qu'on appelle des politiques, c'est-à-dire des catholiques qui estiment qu'il faut trouver un compromis pour sortir le royaume de la guerre civile, qui ont mal vécu l'assassinat d'Henri III et qui vont finalement se rallier à Henri IV. C'est ce que nous allons entendre par l'écoute du début d'une complainte à la suite de la mort du roi Henri III.
Pleurez, pleurez, fidèles royalistes, et vous aussi que l'on dit politique, vous devez bien pleurer à cette fois d'avoir perdu noble Henri de Valois.
La question va se poser également sous le règne d'Henri IV. Certes, celui-ci succède à Henri III en 1589. Il va abandonner le protestantisme 4 ans plus tard. Il devient ou il redevient catholique car les allers et retours du roi Henri entre les deux confessions ont été effectivement importantes. Mais cette réconciliation avec l'Église catholique ne suffit pas à mettre un terme à toute une littérature, à toute une pensée politique qui en fait un tyran, finalement en fait un mauvais catholique. Et vous avez effectivement des publications qui poussent à la destitution, voire à l'attentat voulu par Dieu contre un roi soupçonné toujours d'hérésie. Certes, le cardinal Bellarmin, en 1581, dans son texte des Summo Pontifice, avait défendu l'idée que le droit pontifical pouvait déposer le mauvais roi. Mais ce thème est repris par des grands théologiens espagnols en particulier, à la solde de Philippe II et de Philippe III, qui visent à attaquer justement la monarchie française pour être insuffisamment sévère avec l'hérésie. C'est le cas de Molina ou de Suarez, par exemple. Et donc, il y a effectivement, y compris avec des écrits de Juan Mariana en 1598, des défenseurs d'une monarchie qui soit à la fois tempérée, mais sous le contrôle de l'Église, et avec une défense du tyrannicide, c'est-à-dire une défense de l'élimination physique d'un roi soupçonné éventuellement de sympathie pour l'hérésie. On peut estimer que l'assassinat de 1610 l'assassinat de 1610 par Ravaillac du roi Henri IV, eh bien, est le résultat de cette propagande. Il semblerait que Ravaillac ait agi seul, mais qu'il ait été influencé, en particulier par des sermons que l'on tenait dans les églises de l'Angoumois où il vivait et où l'on présentait le roi comme un mauvais catholique. Et donc, Ravaillac a eu sans doute le sentiment d'être le bras de Dieu qui allait punir le mauvais roi. Ravaillac a été arrêté après son assassinat, son tyrannicide, pour reprendre l'expression consacrée. Lui a parlé, il a toujours dit, affirmé qu'il avait été seul, qu'il avait eu le sentiment qu'il suivait la volonté divine, et il est mort dans des conditions réservées au régicide, c'est-à-dire des conditions extrêmement rudes. Il y a eu, en 1610, une panique véritablement dans le royaume à l'annonce de la mort parce que on a craint dans beaucoup de provinces que le risque d'une guerre civile allait réapparaître. Il y a eu une dernière tentative de régicide, c'est en 1757 contre Louis XV, l'attentat de Damiens, dont j'ai eu l'occasion de faire une chronique voici quelques mois. Damiens est mort dans les mêmes conditions que Ravaillac, mais cette fois-ci, l'opinion publique ne comprend pas toujours la dureté de la mise à mort. Les temps ont changé, non pas que l'on accepte l'idée que l'on puisse assassiner le souverain, mais 1610 n'est pas 1757, et la mort de Damiens a provoqué sans doute quand même quelques émotions vis-à-vis de la dureté du châtiment. Finalement, le dernier régicide, ce fut véritablement celui de 1793, quand l'Assemblée de la Convention a décidé à la majorité de mettre à mort celui qui fut roi de France. Et donc c'était l'ancienne représentation de la nation dans la personne du roi qui allait disparaître au profit de la nouvelle représentation de la nation par l'Assemblée élue par une partie des Français.